France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au petit matin au programme de ce 5-6. Un fameux trois-mâts et son capitaine, surtout dans les chroniques littorales. Jossman fait groover la playlist de France Inter vers 5h40. Et il n'est pas le seul, Janet Jackson et Forever Pavot seront là aussi pour vous tirer du lit. Et si vos réveils devenaient créatifs, c'est l'objectif de notre invité déjà debout, membre d'une association toulousaine. Il nous dira comment. On vous propose aussi une balade en forêt, forêt gérée de façon durable dans le grand reportage de France Inter. Et puis il sera question des hérésies dans le café philo juste avant 6h. Vous avez le menu et je vous accompagne sur France Inter jusqu'à 9h.
France Inter.
Et on démarre avec le journal d'Emma Jacob. Bonjour Emma.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La France va-t-elle dire oui à l'accord avec le Mercosur ?
En visite au Brésil hier, à quelques jours de l'ouverture de la COP30, Emmanuel Macron a défendu le traité de libre-échange avec plusieurs pays d'Amérique latine, annonçant une probable ratification avant la fin de l'année. Cet accord est dans les tuyaux depuis plusieurs mois et provoque la colère du monde agricole, très inquiet de voir arriver sur le marché une concurrence jugée déloyale. Le président de la République, lui, assure vouloir défendre les agriculteurs français, Paul Barcelone.
Emmanuel Macron plaide la cohérence, autrefois opposé à ce traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Le président assure que les garanties pour établir des règles du jeu équitables vont dans le bon sens.
Nous avons été entendus par la Commission, qui non seulement nous a donné une réponse positive sur ces mesures, ces clauses de sauvegarde, mais a souhaité aussi apporter des soutiens, en particulier au secteur de l'élevage, et une série de mesures techniques qui permettent d'avoir un paquet qui, à nos yeux, est tout à fait acceptable. Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant.
Car le dossier est entre les mains de la Commission européenne, qui doit encore faire signer, au Brésil notamment, ses clauses de sauvegarde. Mais Emmanuel Macron tente de convaincre les agriculteurs français que ce traité est une opportunité pour eux.
Nous parlons dans un moment où le marché chinois se ferme chaque jour de plus en plus parce qu'il y a des surcapacités et où le marché américain est beaucoup plus difficile en raison des tarifs. Donc je suis cohérent dans ce que je dis parce que c'est comme ça aussi qu'on fera de l'Europe une puissance commerciale, ce qui est ce à quoi je crois.
Le président se défend donc de tout revirement, même si à ses yeux, ce débat comme ceux en cours sur le budget aujourd'hui ne doivent pas, je cite, nous divertir de l'objectif principal, faire de la France une puissance indépendante.
Hier soir, Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur les enjeux climatiques de la COP30 qui s'ouvre lundi en Amazonie. Le président de la République appelle à choisir la science face à l'idéologie. 10 ans après la signature des accords de Paris, les objectifs climatiques sont aujourd'hui loin d'être atteints. D'autant que cette nouvelle COP se déroulera sans les États-Unis, l'un des pays les plus pollueurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donald Trump qui annonce cette nuit l'arrivée imminente d'une force internationale à Gaza. Déclaration au lendemain de l'annonce d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destiné à soutenir le plan de paix du président américain.
En France, plus que quelques heures avant la fin de la garde à vue du suspect de l'attaque à la voiture sur l'île d'Oléron.
L'homme de 35 ans va être mis en examen pour tentative d'assassinat, annonce du procureur de La Rochelle hier soir. Il est suspecté d'avoir renversé 5 personnes mercredi matin. 2 sont toujours dans un état grave. Ses motivations ne sont pas encore établies, mais Éric Le Bihan, le procureur, a donné de nouveaux éléments d'enquête.
Le trentenaire sous cannabis a tenté de percuter 7 personnes au total avec le véhicule de son père. Il a finalement heurté 2 cyclistes et 3 piétons. Les 2 victimes les plus grièvement blessées sont toujours hospitalisées dans un état préoccupant, selon le procureur. Un rodéo criminel de 40 minutes à peine entre Saint-Pierre et Dolus. L'Oléronais tente de prendre la fuite dans un champ, mais il est neutralisé à l'aide d'un taser après avoir prononcé à plusieurs reprises « Allah Akbar ». Une bonbonne de gaz et une lame de couteau de 35 cm ont été retrouvées dans le véhicule. Célibataire, sans enfant et sans emploi, le marginal connu de la justice a déclaré qu'il souhaitait mourir en s'immolant, mais il n'est pas parvenu à faire exploser son véhicule, le procureur de la République Arnaud Larez.
Il motivait son acte en indiquant avoir suivi les ordres d'Allah, qui lui intimait de faire un sacrifice. Il déclarait s'être tourné vers le catholicisme dans un premier temps, puis s'être converti récemment à l'islam, seul et à l'aide des réseaux sociaux.
Le trentenaire a également confié aux enquêteurs avoir entendu des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps et a fait part de sa volonté d'être interné. Cannabis, trouble de la personnalité, le parquet antiterroriste a écarté toute dimension djihadiste et aucun lien avec une organisation terroriste n'a été établi à ce stade.
Après sa mise en examen ce matin, le suspect devrait être placé en détention provisoire. À l'Assemblée nationale, l'examen du budget de la Sécu se poursuit. Hier soir, les députés ont adopté un amendement des Républicains visant à baisser le coût des heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale devrait d'ailleurs être voté ce week-end.
Une avancée qui permettrait aux députés de réattaquer rapidement l'examen du projet de loi de finances. Le camp présidentiel et ses alliés du socle commun contraints de faire des concessions pour amadouer la gauche et notamment le PS. Mais le Premier ministre a prévenu, s'il tombe, c'est la dissolution. État des lieux auprès des députés de l'Assemblée nationale avec Laurence Perron.
Jusqu'ici, tout va bien. Les députés de chaque groupe jouent leur partition, la gauche, de LFI aux communistes et aux écologistes, poussant les feux pour démonter les fondamentaux macronistes, la droite s'insurgeant contre l'irresponsabilité financière, les socialistes menaçant de ne plus jouer le jeu du compromis s'ils n'obtiennent pas des victoires significatives. Le rapporteur général du budget, le LR Thibault Bazin, leur rappelant à intervalles réguliers qu'il faut savoir raison garder.
Je n'étais pas à Blois pour la réunion du Parti Socialiste, mais j'ai compris que tous vos amendements, ça allait représenter près de 26,9 milliards d'euros.
Le camp macroniste ravale sa consternation devant le détricotage de totems comme celui de la réforme des retraites. Pierre Cazeneuve, député EPR, hésite encore entre l'abstention ou l'opposition quand il lui faudra voter la suspension, mais inimaginable de faire dérailler l'adoption d'un budget.
À ce stade, la position du groupe n'est pas tranchée. Je pense qu'il y a deux impératifs. Le premier, c'est évidemment d'avoir une position de groupe commune. Le deuxième, c'est de ne pas mettre en difficulté le Premier ministre.
De fait, reconnaît un ministre, le cornu a décidé qu'il n'allait pas mourir. Et donc, même si c'est pénible pour nous, ça veut tout de même dire pas de dissolution. On peut gueuler aux quatre colonnes, mais au moins, on évite de faire le tractage sur les marchés.
Eux veulent faire une nouvelle fois pression sur le gouvernement. La CGT, FSU et Solidaires appellent à une journée de mobilisation le mardi 2 décembre contre l'austérité et pour les salaires. Julia Simon pourra disputer les JO d'hiver 2026. La biathlète était devant une commission de discipline hier et écope d'un mois de suspension ferme. Les Jeux, eux, se déroulent en février en Italie. La championne de 29 ans a été condamnée fin octobre à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour avoir utilisé les cartes bancaires d'une de ses coéquipières et de la kiné de l'équipe de France de biathlon.
Lui prend sa retraite à 31 ans.
Le footballeur international Léo Dubois annonce mettre un terme à sa carrière. L'ancien défenseur des Bleus, qu'on a vu sous les couleurs de Nantes ou encore de Lyon, jouait désormais en Turquie, mais doit raccrocher les crampons à cause de problèmes physiques.
C'était le journal d'Emma Jacob. Vous revenez, Emma, dans moins d'une demi-heure pour un nouveau point sur l'info. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Le temps est perturbé aujourd'hui, Sophie Bria.
Une nouvelle perturbation pluvieuse touche la Bretagne ce matin pour se décaler à la mi-journée de la Normandie aux côtes landaises et basques. Le nord se réveille sous les nuages qui s'étendent jusqu'au Cotentin, le bassin parisien, l'Auvergne et l'Occitanie pour se disloquer dans la journée avec un ciel beaucoup plus lumineux sur la moitié sud. Et le soleil se trouve à l'est dès le lever du jour, des Ardennes jusqu'aux Alpes du Sud, avec de la grisaille qui circule dans le Val-de-Saône et en Alsace. Et sur la région PACA, ce matin, le temps est couvert avec des pluies localement marquées et orageuses et les éclaircies reviennent dans l'après-midi, mais des averses persistent sur le Var et les Alpes frontalières. Les températures au lever du jour sont comprises entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, 8 à 9h11 à Nantes et Paris. Il fait plus frais à l'est, 2 degrés à Metz et 3 à Strasbourg. Sur la moitié sud, vous avez de 8 à 15 degrés.
La météo de Sophie Bria, il est 5h09.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
À suivre sur France Inter. ICO, on a rendez-vous avec un capitaine de trois mâts dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout, lui, s'occupe de vos, de nos réveils. Il travaille à les rendre créatifs et il nous expliquera comment. Il sera question d'égalité dans la chronique d'où ça sort. Et puis, Tanguy Pastureau maltraite l'info et raconte le harcèlement scolaire qu'il a subi à 5h25. Avant d'embarquer donc pour les chroniques littorales, de la musique et de l'amour, Optimat. Matin,
2020, avec un groupe américain dans la playlist de France Inter, Spoon et leur chanson « Guess I'm Falling in Love ». Bon réveil. Guess I'm Falling in Love de Spoon, avant-goût de leur prochain album prévu avant la fin de l'année. 5h12 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Et vous nous présentez un capitaine de trois-mâts ce matin.
Oui Marion, en la personne d'Arnaud Goron, le capitaine du trois-mâts barque Le Français, qui est amarré à La Rochelle jusqu'à lundi ou mardi prochain, où je l'ai rencontré. Arnaud Goron, bonjour.
Bonjour. Arnaud Goron, capitaine d'un trois-mâts. Comment tout a commencé pour devenir capitaine ?
Tout a commencé, c'est compliqué parce que j'ai pas fait une carrière forcément de marin dès le début. J'étais cordiste, j'installais des paratonnerres moi à la base.
Comme dans la chanson de Brassens quoi.
Voilà, tout à fait. Et puis c'est à l'âge de 22 ans à peu près où j'ai commencé à être bénévole sur des voiliers traditionnels. Et vite fait, les capitaines m'ont mis un coup de pied au cul, ils m'ont dit que t'es meilleur que des marins à nous, va à l'école et on t'embauche derrière. Et donc tout simplement, moi, je suis passé par des formations adultes, j'ai passé mon certificat d'initiation nautique. Puis après, je me suis senti, donc j'ai passé mon capitaine 200 voiles. Et puis dernièrement, là, il y a 4 ans, le capitaine 500. Les capitaines du bord, Tugdo Aljaouen ou Olivier Meynier, m'ont fait confiance en tant que second, m'ont passé des manœuvres. Et puis je me suis senti, et puis voilà, je suis passé capitaine.
Tout ça, c'est des examens niveau par niveau ?
Voilà, c'est des examens de la marine marchande qui permettent de naviguer sur des tailles de navires différents.
Et là, le français, il nous fait combien de mètres de long ?
47 mètres hors tout, ouais. 39 de coque et 47 hors tout. Ouais. À trois mâts barque, ouais.
Combien de voiles ?
19 voiles au total, quasiment 900 mètres carrés de voilure.
Là, on est dans le carré. On sent le bois, on sent un petit peu le mazout parce qu'il y a aussi un moteur quand même, ouais. Ça sert. Et puis, je veux dire, il y a un égrégore, il y a un esprit, il se passe quelque chose.
C'est tout le temps magique, il y a une vie à bord d'un bateau et on vit avec, on communique avec, on navigue avec, donc on a... Ouais, on est en échange tout le temps avec le bateau.
Vous vivez sur le bateau et est-ce qu'à un moment vous avez un lieu à vous, chez vous, ailleurs ?
Ouais, des fois je m'arrête à Saint-Malo où j'ai ma famille, mes amis, voilà, où je me pose.
Où comptez-vous aller un de ces jours avec le français ? C'est 47 mètres de long. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un désir, une volonté, vous imaginez quoi ?
New York. New York, ce serait magique. Arriver à New York avec un trauma, ce serait vraiment, là, vraiment magique, exceptionnel.
Vous n'avez pas envie de changer de bateau, non ?
Si, ça arrive, les marins, on a tout le temps envie de changer de bateau.
Il y a un autre bateau qui vous fait rêver, un autre voilier ?
Un autre voilier qui me ferait rêver, où j'ai pas navigué dessus, c'est la Boudeuse. La Boudeuse, j'aimerais bien. Ouais, super bateau, ouais, magnifique.
Il est amarré où, la Boudeuse ?
Il est laissé le long d'un quai au Havre depuis des années. J'aimerais bien avoir un projet avec ce bateau et pouvoir être capitaine dessus. Ouais.
Faut en parler au propriétaire.
Faudrait trouver le propriétaire et lui dire mais pourquoi ce bateau reste à quai. Ce serait intéressant de le voir renaviguer.
Quand on est capitaine d'un voilier, est-ce qu'un jour ou l'autre, on peut revenir sur un bateau où il n'y a pas de voile?
C'est compliqué. Ouais, juste pour moi, j'aurais du mal, moi.
On parle beaucoup aujourd'hui du transport véhicule et les voiles modernes, c'est en plein essor. Ça vous tente un jour de devenir capitaine d'un nouveau cargo à voile technologique ?
Typiquement, ouais, grain de sel. Donc moi, à la sortie du Captain 500, je me suis dit, tiens, je vais aller visiter grain de sel 1 qui fait 24 mètres. Donc, 24 mètres.
Grain de sel, c'est une des compagnies véliques.
Voilà, donc je vais visiter grain de sel. Et donc, le second capitaine me dit, il faut un Captain 3000 pour pouvoir transporter du cacao. Voilà, bah, va falloir que je retourne à l'école si je veux être capitaine sur des bateaux à transport vélique.
Est-ce qu'il y a un moment où on a envie de fonder une famille ?
Ouais, mais c'est compliqué, il y a toujours l'appel de la mer. La vie de marin, on voyage, quoi, tout le temps.
Merci Arnaud Goron. Voilà, pour les Rochelais ou ceux de passage, n'hésitez pas à venir admirer ce bateau d'exception. Un site internet, lefrançais.info. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
Et à la une de la presse ce matin, des hommes, des chiffres et une voiture aussi. Sa silhouette rebondit au phare rond comme des yeux étonnés. Vous rappellera peut-être les années 90. C'est la Twingo qui revient dans les concessions en version électrique, bien sûr. Renault dévoile sa nouvelle Twingo, annonce les Échos avec en photo la diva de face dans une version vert forêt. Le quotidien économique note que la marque aux losanges mise décidément sur la nostalgie des automobilistes. Le retour d'une icône à moins de 20 000 euros salue plus discrètement le Parisien. Le Parisien qui continue à travailler sur le dossier Shein, cette plateforme chinoise qui fait scandale, photos de poupées sexuelles pédopornographiques à l'appui. Le titre qui barre la une pose une question qui vient à l'esprit ces jours-ci de tout parent. Comment protéger nos enfants ? Des chiffres alarmants aussi en une de vos quotidiens. 60 000 Français privés d'eau potable. Et ce n'est qu'un début, avertit Libération face au scandale des PFAS, les polluants éternels. 450 plans de licenciement, 100 000 emplois menacés, calcule de son côté l'Humanité avec ce titre choc, la saignée qui serait, selon le quotidien, due aux politiques économiques et fiscales du gouvernement. À propos de fiscalité, impôts à droite, la riposte s'organise, titre l'Opinion, allusion à la lutte d'Édouard Philippe, Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin contre les nouvelles taxes. Le Figaro, lui, se fait l'écho du rapport au vitriol de la Cour des comptes sur la gestion du musée du Louvre. Gravement mise en accusation, ses finances dégradée notamment selon le quotidien. Le Figaro qui salue aussi deux hommes visiblement ravis, le journaliste Éric Neuhoff et l'écrivain dramaturge Florian Zeller, tous deux élus à l'Académie française hier. On attend la photo avec épée et habit vert. Liberté, fraternité et égalité. Cette égalité qui fait partie de la devise nationale française, elle est apparue politiquement à la Révolution, mais depuis ne cesse d'être remise en question. C'était le sujet hier de Zoom Zoom Zen avec son invité, l'historien américain Darin McMahon. Alors, quel est le sens véritable de l'égalité ? D'où ça sort, Cyril Lacarrière ?
Imaginez un mot qu'on affiche partout mais qu'on applique rarement, un mot gravé sur les mairies, répété dans les discours, mais toujours dans la salle d'attente de la vraie vie. On le cite dans les slogans, on le revendique à gauche, on s'en méfie parfois à droite et parfois aussi au centre on l'oublie. C'est un mot très français mais peut-être aussi celui qu'on trahit le plus souvent, parlons donc d'égalité. Parce que si tout le monde se dit pour, tout le monde ne parle pas de la même chose. L'égalité c'est à la fois le rêve républicain, le cauchemar des privilégiés et le mot le plus déformé de la politique française. Le mot lui-même vient du latin equitas, l'idée selon laquelle il ne peut y avoir de discrimination des droits entre les êtres humains.
Et politiquement, quand est-ce que le mot apparaît ?
Eh bien en 1789, vous avez commencé à le dire, et Manon en parlera tout à l'heure, évidemment, avec la Déclaration des droits de l'homme, rappelez-vous, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais dès le départ, cette notion fait débat. Chaque fois, un même réflexe, dès qu'on prononce le mot égalité, certains y voient une menace. On l'a vu avec le mariage pour tous. Il s'agissait de donner les mêmes droits à des gens qui s'aiment, et ça en a défrisé certains, comme si cela leur retirait leurs droits à eux. L'égalité, c'est une notion aussi qui interroge. Pierre Rosanvallon dit que c'est un idéal exigeant qui nous met sans cesse en défaut. L'historienne américaine Joan Scott dit que l'égalité n'est jamais neutre. Elle dit toujours qui est inclus et qui ne l'est pas. Alors d'où ça sort, l'égalité? Eh bien de là, d'un rêve de 1789, et ce n'est que le début de notre histoire.
Cyril Lacarrière hier dans Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël, et cet après-midi toute l'équipe Zoom Zoomera sur les data centers, ces centres de données si précieux pour stocker nos informations mais si gourmands en énergie. L'émission commence à 16h sur France Inter. Pour l'instant il est 5h19, dans un instant retour à l'école avec l'humour de Tanguy Pastureau, mais tout de suite un ovni dans la playlist de France Inter, c'est UFO, UFO, nouveau titre de Forever Pavot, musicien français autodidacte qui aime expérimenter, la preuve avec ce nouveau morceau, donc Forever Pavot et Melchior en duo avec la chanteuse Lee Spector. UFO, extrait du nouvel album Melchior, volume 1, qui sortira le 28 novembre. Forever Pavot sera notamment en concert à Rennes le 28 janvier, puis à la Maroquinerie à Paris le 12 février prochain.
France Inter.
Et c'est l'heure de l'humour de Tanguy Pastureau. Hier, nous étions le 6 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Tanguy a pris à bras le corps le sujet, les chiffres qui s'envolent et sa propre expérience.
En ce moment, je fais de la promo. Par exemple, samedi matin, j'étais invité de Télématin.
Oula !
Samedi, on était le 1er novembre, jour férié. Je me fais pas d'illusions, je sais que si mon prix, c'est que personne d'autre ne voulait. Bernard Ménez et les Gisquad ont dû dire non. Le suivant sur la liste, c'était moi. Donc j'arrive tôt le matin au siège de France Télé, le hall est vide. Et alors, jour férié à France Télé, il n'y a même pas de gens à l'accueil. Donc, technique non. À l'ancienne, j'ai hurlé « Je connais Nagui », ça fait sortir des employés terrorisés qui m'ont permis d'entrer. J'arrive au maquillage, la dame me dit « Avec ce qu'il y a à faire, fallait venir une heure plus tôt, j'ai pas signé pour des effets spéciaux Marvel ». Puis j'entre en plateau, l'équipe du week-end était remplacée par l'équipe B. Dans mon actu, j'ai un livre qui va sortir, dont je parle peu à France Inter, parce que le sujet est sensible. Oui. Ça s'appelle « L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite ». Ça sent la fatwa du côté du local de la CGT. C'est la seule fois où j'y ferai allusion. Puis on part sur la promo de mon spectacle, Un monde hostile. Et c'est jamais évident parce qu'il y a des vannes, 12 000 sur 1h20, je crois. Hein. Mais j'y parle aussi du harcèlement scolaire que j'ai subi à l'époque du collège. Parce qu'il y avait un type qui me tabassait tous les jours. Et à l'époque, j'avais ni ce corps de guerrier, ni cette rage. Non, à l'époque, j'étais gentil. Et quand t'es gentil, tu prends. Alors que pour les méchants, c'est plus calme. Vladimir Poutine, même dans un concours de pichenettes, tu lui laisses te faire des pichenettes et tu gardes tes doigts à toi dans les poches. Donc à Télématin, bon, on a un peu parlé de ça, puis vite d'autre chose, parce que le 1er novembre au réveil, il faut de la joie. Si j'avais été eux, j'aurais calé juste après mon passage un live de Mika avec Philippe Catherine qui danse derrière en slip à poche, quoi. Et en fait, ce truc que j'ai vécu au collège, j'ai vite réalisé que plein de gens ont vécu ça, mais moi je pensais que c'était l'époque. En 88-89, tu vois, t'étais là, t'écoutais Tristan chanter « Je suis de bonne
humeur ce matin, il y a des matins comme ça. »
Et là, il y a un mec qui te collait une beigne. Tu cherchais le pourquoi du comment, hein. Tu interrogeais mentalement Freud, Jung, Lacan, Samantha Fox. Rien à voir, mais en général, à l'époque, au bout de 2 secondes à penser à quelqu'un, je me mettais à penser à Samantha Fox. Puis tu réalisais qu'il le faisait parce qu'en fait, tout le monde le laissait faire. Et c'est vrai qu'en commençant ce spectacle, je pensais que c'était un truc du passé, quoi, un truc de daron. Parce qu'aujourd'hui, le harcèlement, on en parle. Le personnel y est sensibilisé, notamment au collège, parce que ce sont les 4 années les plus dures de la vie. J'ai jamais vu de concentration de débiles plus importante qu'au collège. Si tu sors indemne à la fin de la 3e, tu peux enchaîner sur 18 stages de masculinisme en forêt de pimpon. Tu te fais embrocher par des sangliers en criant à côté de la vigue m'a fait Cyril Dupont en 4e C. C'est cool. Et avant-hier, vous savez, je vous parlais des testicules de Michel Drucker.
Oui.
Dans une chronique qui n'a pas fait date. Bon, ben, je me souviens qu'au collège, il y avait un jeu. Tu te faisais avoir une seule fois, hein, un mec, toujours un mec, hein, parce que les filles étaient occupées à coller des vignettes de 21 James Street dans leur cahier de texte. Puis surtout, elles étaient plus intelligentes. Un mec venait vers toi, te disait c'était qui déjà ce rocker américain Elvis, comment déjà? Répondais Presley, et là il te broyait les parties génitales. Donc j'ai vite compris qu'il fallait répondre moi j'aime Charles Manson en bavant, hein, pour s'en sortir. Moi je pensais que tout ça avait changé, puisqu'on parle de bienveillance tout le temps, les gens font des petits cœurs avec les doigts, et la réalité c'est que 37% des jeunes sont harcelés dans l'enceinte scolaire, 2 sur 5 entre 6 et 18 ans. On parle donc de 2-3 millions d'individus qui vivent la boule au ventre. Et alors, je peux en témoigner, c'est une boule qui disparaît jamais à 100%. Après, vous vivez dans la hantise des boules. Jamais j'ai pu jouer à l'euro-million. À un moment, je m'étais dit, tant pis, je vais devenir millionnaire en travaillant dans les médias. Je sais plus qui m'a conseillé d'embaucher à France Inter et surtout pourquoi j'ai répondu, bonne idée. Sur ces millions de petits harcelés dont on parle si peu, un quart a déjà pensé au suicide, selon l'enquête de l'association e-enfance, dès 6 ans. À 6 ans, normalement, non, je sais pas, on ne pense pas au suicide, non. On pense au gag dans l'âne trop ou trop à manger les gaufrettes de sa sœur. Ces enfants, en fait, attendent quelque chose de nous. Et où sommes-nous? Et encore, quand moi j'étais harcelé, vous savez, j'avais un refuge, la maison. Patrice, c'était mon harceleur, il n'allait pas rentrer chez moi par le biais de la télé en arrivant à droite du présentateur de la roue de la fortune. Mais avec le numérique, en fait, le harcèlement continue à la maison, via WhatsApp notamment, dit l'étude, 41% des cas de cyberharcèlement, donc souvent dans des groupes de classe, se font sur WhatsApp. Nous, les vieux, on fait des groupes qui s'appellent cadeau anniversaire Old Olaf. Et on finit par lui acheter à 12, en mettant 2,20€ chacun, le dictionnaire amoureux des calembours d'Alain et à l'extérieur. Mais les enfants, eux, s'en servent pour isoler, harceler, stigmatiser tel ou tel. En plus, 65% des enfants de primaire utilisent les réseaux sociaux, 65%, pourtant interdits aux moins de 13 ans. Où sont les parents? Parce que, non, je le dis sérieusement, si vous vouliez des éléments de décoration, il y a Zara Home qui fait des petits pots pas chers. Personne ne vous oblige à avoir des enfants. Moi, je vais pas mal chez Zara Home. Il y a des petits pots qui, esthétiquement, valent la plupart des enfants. Hein, vous comparez, vous prenez le catalogue, vous le mettez à côté de la photo de classe, c'est vite fait. À chaque sortie de spectacle, j'ai des parents qui me parlent de leur Patrice à eux, mais parfois, ils viennent avec leurs enfants, des collégiens qui auraient préféré voir Paul Mirabel, et qui me racontent des situations semblables à la mienne. Pourquoi est-ce qu'en 40 ans, ça n'a pas avancé? Pourquoi est-ce qu'en 40 ans, ça s'est même aggravé? Alors, il y a un numéro, c'est mieux que rien, on va dire, pour signaler une situation de harcèlement que personne ne connaît d'ailleurs. Le numéro, c'est le 3018.
Tanguy Pastureau maltraite l'info. Du lundi au vendredi dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour, ils reçoivent notamment à 11h l'actrice Isabelle Carré pour Les Rêveurs en salle le 12 novembre. Dans une poignée de secondes, le journal.
les dimanches soirs sur France Inter.
Balzac. Des fois, on en a un peu ras-le-bol de le faire à l'école. C'est un auteur que j'adore.
Ariane Ascaride et ses admirations littéraires.
En fait, si on prend la description telle qu'elle est écrite et qu'on prend une caméra et qu'on fait exactement ce qu'a écrit Balzac, c'est un storyboard, il n'y a plus rien à faire. On filme et tout est là.
Ariane Ascaride nous lit les textes qui l'inspirent.
Je me dis que Balzac a peut-être inventé le cinéma.
Les admirations littéraires d'Ariane Ascaride, c'est ce dimanche, après le journal de 19h sur France Inter.
5h29 sur France Inter, mais qui voilà, c'est Ali Badou qui vient
mais
de nous rejoindre
Marion,
en studio,
ça
en pleine
vous surprend
forme,
tous les vendredis, oui. C'est merveilleux.
Alors quel est notre programme aujourd'hui?
À 6h20 Marion, pour comprendre les enjeux du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, votre invitée Tara Varma, qui est chercheuse invitée à Washington, viendra vous en expliquer tous les ressorts. À 8h moins le quart dans le débat éco, Chine, est-ce la faute des consommateurs? On verra ce qu'implique l'arrivée de la marque chinoise sur le marché français. Et à 8h20 dans le grand entretien, Gilles Finkelstein, notre camarade de France Inter, viendra nous parler de son essai passionnant, La démocratie à l'état gazeux, qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
Une nouvelle grille d'analyse. France Inter, il est 5h30. À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
Et c'est l'heure du journal avec Emma Jacob. Bonjour Emma.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les pensions de retraite des femmes devraient être augmentées.
C'est l'une des mesures examinées ce week-end par les députés et peut-être une des seules susceptibles de faire consensus dans le projet de budget de la Sécu. Les femmes retraitées touchent aujourd'hui près de 40% de moins que les hommes. Sébastien Lecornu a promis de se pencher sur le sujet après le conclave des retraites organisé au printemps dernier. Alexis Morel, ce que prévoit le gouvernement peut-il changer la donne ?
Le gouvernement veut d'abord revoir le calcul des pensions des mères de famille. Aujourd'hui, basé sur les 25 meilleures années de carrière, il s'agit de le limiter à l'avenir aux 23 ou 24 meilleures années selon le nombre d'enfants. Objectif, atténuer l'effet des écarts salariaux avec les hommes durant la vie professionnelle. Selon l'exécutif, cela augmentera les pensions de la moitié des femmes qui partiront à la retraite l'année prochaine. Carole Bonnet est chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, spécialiste des retraites.
On ne sait pas à quelle hausse de pension cela va aboutir. On peut penser que ce serait quand même assez limité. Et puis, surtout, ça ne concernera pas les femmes avec des carrières plus précaires, carrières courtes, qui n'ont de toute façon pas ni 23, ni 24, ni 25 meilleures années. Elles ne seront pas concernées par la mesure.
L'autre levier envisagé, c'est d'agir sur les départs anticipés pour carrières longues, qui concernent aujourd'hui très majoritairement les hommes. Pour permettre à plus de femmes d'en bénéficier, certains trimestres obtenus pour la naissance d'un enfant pourront être comptabilisés. Ce n'était jusque-là pas le cas. Des petits pas positifs, selon Carole Bonnet, mais qui ne suffiront pas à eux seuls pour atteindre l'égalité des pensions d'ici 2050, objectif désormais inscrit dans la loi.
À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté hier soir un amendement des Républicains pour baisser le coût des heures supplémentaires. Cela concerne les entreprises de plus de 250 salariés. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui pourrait être voté dès ce week-end avant un retour du budget 2026 à l'Assemblée. Dans l'affaire de l'attaque à la voiture sur l'île d'Oléron, le suspect doit être mis en examen aujourd'hui pour tentative d'assassinat. Sa garde à vue sera levée dans les prochaines heures. L'homme de 35 ans suspecté d'avoir renversé 5 personnes mercredi matin, dont 2 sont toujours dans un état grave, dit avoir agi au nom d'Allah. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, aucun lien avec des organisations terroristes n'a été établi. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi et reste en observation.
Le traité commercial de libre-échange du Mercosur pourrait bientôt entrer en vigueur.
En déplacement au Brésil avant la COP30, Emmanuel Macron évoque une possible ratification d'ici la fin de l'année. Le président de la République assure cependant rester vigilant pour défendre les intérêts de la France et de ses agriculteurs. Cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine est sur la table depuis plusieurs mois, mais doit encore être approuvé par les 27. La Hongrie peut-elle se passer du pétrole russe? Absolument pas, selon son premier ministre Viktor Orban. La question sera évoquée aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le leader nationaliste européen, allié de la Russie, est reçu par son ami Donald Trump. Le président américain, lui, n'en démord pas. Tous les membres de l'Union européenne et de l'OTAN doivent cesser ces importations. Des menaces alors que Budapest dépend encore très fortement de Moscou pour son approvisionnement, Virginie Pironon.
alors que tous les pays européens, à l'exception de la Slovaquie et de la Hongrie, ont coupé le cordon avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine, Budapest importe encore 80 à 90% de son brut de Russie. Pour Viktor Orban, il n'y a pas de plan B. En cause, la géographie du pays, pas d'accès à la mer. Le pétrole transite par l'oléoduc Droujba, long de 4000 km. Il traverse l'Ukraine depuis la Russie, où il est souvent la cible de l'armée ukrainienne, provoquant un bras de fer politique entre Kiev et Budapest. En se privant de cet or noir venu du froid, Viktor Orban, à 6 mois d'élections législatives cruciales, craint une explosion des prix et des pénuries. Les sanctions américaines adoptées le mois dernier sur le pétrole russe l'inquiètent tout particulièrement. Alors aujourd'hui, dans le bureau ovale, il tentera d'expliquer à Donald Trump que ce n'était pas une bonne idée. Le président américain qui, en septembre dernier, à l'ONU, s'énervait en parlant de ces Européens qui, en achetant du pétrole russe, financent la guerre eux-mêmes, mais sans jamais pointer directement du doigt son ami hongrois.
Virginie Pierronon pour France Inter.
Et puis 18 minutes d'avance seulement, mais ça a suffi pour l'emporter.
Les skippers français Baptiste Hulin et Thomas Rouxel, vainqueurs de la Transat Café L'Or hier soir en Martinique, dans la catégorie Ocean 50, les bateaux de 50 pieds. Le duo est arrivé à Fort-de-France 12 jours après avoir mis les voiles depuis Le Havre. Les fans de GTA vont devoir faire preuve d'encore un peu de patience après plusieurs retards. La sortie du jeu vidéo d'action est encore repoussé, cette fois au 19 novembre. Son éditeur l'a annoncé hier. La dernière édition date de 2013 et s'est écoulée à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde.
Merci pour ce journal, Emma Jacob. Bonne nuit.
Bonne journée. Bonne journée à vous.
Elle s'annonce agitée. Encore des pluies sur le sud-est et nouvelles perturbations à l'ouest. Temps couvert et pluvieux, voire orageux ce matin sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un vent d'est sensible. Les éclaircies reviendront cet après-midi, mais les averses persistent sur le Var et les Alpes frontalières. Et c'est plus ensoleillé sur le Languedoc-Roussillon, du Rhône-Alpes au nord-est, où le soleil s'imposera après dissipation des grisailles matinales. Sur l'ouest, les nuages dominent dès ce matin. Des pluies arroseront la Bretagne, puis la façade atlantique. Attention au brouillard du Limousin à la Normandie. Côté température, le thermomètre affiche 2 à 12 degrés ce matin, 7 à 20 cet après-midi, 7 à Strasbourg, 14 à Cherbourg, 15 à Brest, Lille, Rennes et Paris, 16 à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nancy et Limoges, 17 à Lyon et Biarritz, 18 à Marseille, 19 à Perpignan et 20 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez de Josman, le rappeur que vous avez peut-être entendu, chers auditeurs. Mercredi, chez Sonia De Villers, elle faisait son portrait. Et avec vous, Mathieu, on passe sur la table d'écoute.
Et oui, mais c'était chic, avouer Josman invité dans la matinale pour parler de son nouvel album Dom Pérignon, Crying, un pleuré du Dom Pérignon. C'est pas mal.
Ouais, c'est chic aussi.
Est-ce qu'il ne faut pas citer d'autres marques concurrentes pour pas faire de pub ? Allez, il n'y aura pas de jaloux. Bollinger, Mouette, Roederer, Drapier, voilà c'est fait. En tout cas, Josman, c'est champagne. Écoutez ça, ça c'est le début très soigné de son quatrième album qui est sorti vendredi dernier. Yeah.
Mauvais mood, mauvais feeling, mauvais œil, mauvais présage, faut que je me taille. Loin de la grisaille, loin du brouillard, jeune débrouillard. Je navigue entre orage et marécage. Je veux pas vivre dans une case ni dans une cage. Je fais mon chemin comme un lion dans les feuillages. J'escalade les murs et les grillages. Je me suis mépris, j'ai appris comme un sauvage. Soir je suis écrit, le cœur est gris comme les nuages. Je vois pas le bout du tunnel ni le rivage. Quelques larmes qui se mélangent à mon breuvage.
Voilà, les larmes qui se mêlent au breuvage de José Nzengo, alias Josman, rappeur complet. Il sait tout faire, Josman. Rappeur discret aussi, originaire de Vierzon, qui a 33 ans, compte tout de même déjà 3 albums qui sont tous au minimum certifiés platine, c'est-à-dire plus de 100 000 exemplaires quand même. Alors cette année, avant la sortie de ce quatrième album, on a entendu Josman un peu partout, chanter pour le Congo avec Youssoupha et Kalash Criminel, avant cela dans un duo avec Georgia Smith, où tout reposait là sur des guitares, et puis dans un gros titre de club avec Zach P, SCH et Alonso. Mais là, pour son album, Josman joue sur un rap à l'ancienne, boom bap, où on entend beaucoup de piano, des percussions sèches, 13 titres, sans featuring, pas d'invité. Album tendu, dites-vous, Marion.
Oui, c'est ça.
Eh bien, si on va jusqu'au bout de ce que dit Josman dans Tendu.
Je ne fais pas dans la demi-mesure, je ne fais pas dans la dentelle. Dans le ciel, la lune et les étoiles entre elles. Ne parle que de toi et de ton déhanché après le dîner aux chandelles. Bordel. Le temps passe, je cours après les secondes, je sais que l'une d'elles sera mortelle. M'appelle pas le sang ni le J quand j'allume mon J. Dans la city, dans la jungle, comme dans Jumanji. J'ai vécu, j'ai mangé mes fleuges, mais bon c'est léger, mais bon c'est le jeu.
Depuis petit, depuis neige, je me suis arraché les cheveux, tout sacrifié pour mes nièces et mes neveux. Je connais les anges dangereux, je connais les envieux, je connais les démons, les anges, les jaloux qui aimeraient que je change, les jaloux qui aimeraient que je flanche.
Le jeu est dans la jungle comme dans Jumanji. Rime riche, rime pauvre, assonance, question d'argent, essence du placement. Là, je ne parle pas d'investissement. Jussman joue comme il veut des sons, des mots. Et voilà un album qui se tient comme le grand lustre éclairé au milieu des ruines sur la photo en noir et blanc de la couverture.
Et Jussman qu'on va écouter encore sur Inter avec ce titre aux accents do Brasil, Mateus.
Voilà, Jussman nous dit tudo bem, muito obrigado. Il parle de Seleção, de Caipirinha, de l'argent qui se gagne durement. Et on en revient aux fruits de la vigne, figurez-vous, puisque le Mateus, c'est un vin du Portugal. Alors cette fois-ci, c'est des bouteilles abordables, hein, c'est dans les 8 euros, le rosé de Mateus. En maître de chez Easy Diou, qui travaille pour Jussman depuis toujours, le producteur. Écoutez comme ça marche en quelques secondes, Mateus.
Tudo bem, graças a Deus. Je pète une bouteille de Mateus. J'ai le flow de Brasil vini. Elle est sexy à l'infini. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. C'est à ma fin, y'en a d'autres sur la paille. Qui se lèvent tôt pour cette maille, carrage. J'ai tout vu, même l'envers du décor. J'ai même vu en dessous de l'iceberg. J'suis dehors comme un chat de gouttière. J'sais qu'il restera qu'un tas de poussière. La nuit tard, j'ride seul sous la lune. J'ai du mal à traverser la brume. Sur le bitume, trop d'amertume. J'tire, j'fume, j'fly sur Neptune. J'prends mon duche, j'prends mon bif, j'm'arrache. Que la mifle reste nique sa race. Tout de bain, grâce à sa Deus. Sur la plage, pose la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, j'connais le prix de l'erreur. La vie ne m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bien, muito obrigado. Tout de bien, grâce à sa Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. Car j'ai rêvé un dernier verre. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la Célessa. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. J'me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout, bébé, falla comico. Commande une deuxième caipirinha. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Désolé, je n'aime pas ce jeu. On ne joue pas avec le feu. Je prends sur moi pour contenir les nerfs. Le somme remplit le container. J'étais en chien devant l'abribus. Scam scam pour des habits de luxe. J'ai réclamé la paix dans mes prières. Je sens la zèbre alourdir mes paupières. Je regarde la ville à travers la window. Dis-moi tout bébé, falla conmigo. Ma chérie veut un dernier drink. Dans le noir, je mets le plaque dans le pink. La nuit, je ne dors que d'un seul œil. Je pense qu'à remplir le portefeuille. Je prends mon duche pour mon bif, je m'arrache. Que la mifle reste nique sa race. Tout de bain grâce à sa Deus. Sur la plage, pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, je connais le prix de l'erreur. La vie ne m'a pas fait de cadre. Agora, tudo bem, muito obrigado.
Quoi, 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 quoi. Jussman a écouté sans modération dans la playlist de France Inter.
Et Jussman qui sera en concert, Marion, à la Défense Arena le 10 avril 2026 et puis une tournée au Canada, en Suisse, au Luxembourg.
Et merci Mathieu, on vous retrouve ce soir avec un peu de Jussman et plein d'autres nouveautés.
Bah oui, le nouvel album d'Aurel San, celui de Rosalia, c'est du lourd aujourd'hui.
Ah ouais.
Je vous parlerai du Brésilien Lo Borges et puis d'une BD géniale sur l'histoire de la techno. Et je remets le son à ce soir.
À ce soir. 5h42 sur France Inter, à quelques jours de l'ouverture de la COP30 à Belém au Brésil, suite et fin de notre série de grands reportages consacrés aux forêts, puis de carbone essentiel. Comment les préserver, comment lutter contre la déforestation. Ce matin, nous sommes en France, dans une forêt gérée de manière durable, et c'est très rare. C'est celle de Lancôme, près de Châteauroux, dans le parc naturel régional de la Brenne, une forêt privée, exploité, et Célia Kiré, c'est aussi donc un modèle de gestion.
Oui, un exemple est frappant lorsqu'on arrive sur les chemins broussailleux de cette forêt. Ici, des pins maritimes, là, des feuillus et aucune trace de coupe rase. Aucune zone totalement déforestée. Quand les tronçonneuses prélèvent le bois, elles laissent toujours quelques arbres. C'est la règle numéro 1. Nous suivons Kevin Brice, gestionnaire du massif.
Les arbres sont marqués avec une marque à la peinture. Ça, ce sont les arbres qui sont récoltés. Et ensuite, les arbres qui sont préservés pour la biodiversité et sur lesquels il faut faire particulièrement attention parce qu'il y a des habitats. On les marque d'une façon différente.
Donc on le voit là, il y a quelques arbres qui sont enlevés, mais pas tous en fait, c'est ça?
Ah, pas tous, non, bien sûr que non. On gère le massif avec toujours un peuplement et qui est renouvelé.
Des branches mortes sont laissées par terre pour maintenir la qualité du sol, un humus vivant. On voit quelques champignons dans cette forêt alors?
Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques champignons, c'est une forêt qui est riche, hein, c'est une forêt qui est vivante.
On aperçoit des buses, des pivers, des mésanges aussi. On entend des oiseaux là.
Eh oui, vous voyez, la biodiversité, elle est là.
Guillaume Daringer est le responsable du label FSC. Cette forêt est labellisée, 10% de la surface est protégée.
La biodiversité, comme clé de voûte du fonctionnement de l'écosystème, va permettre à la forêt de mieux résister à l'augmentation des températures, l'augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse ou des fortes chaleurs, va également être un facteur de réduction des risques d'incendie. Si la forêt est en bonne santé, elle saura mieux résister à toutes ces attaques extérieures qui sont provoquées par le changement climatique.
Un peu plus loin, le gestionnaire Kevin Brice tente de planter de nouvelles essences. La forêt est diversifiée.
Là, on est dans un reboisement du chêne Cécile, par exemple, qui est adapté. On a des tests aussi de cèdre de l'Atlas que vous pouvez voir juste ici. On peut voir là le petit cèdre qui repousse avec une repousse de l'année qui est là en verte un peu plus claire. Et on a un chêne qui est derrière. On essaie de pas les écraser. Non. On a aussi également des fruitiers, du pommier, du poirier et des bouleaux. On joue pas à l'apprenti sorcier non plus, à vouloir refaire la forêt de demain. On teste des essences qui semblent adaptées dans le futur.
La forêt joue ici sa survie. Thomas Brustan est ingénieur au Centre national de la propriété forestière.
La diversification est vraiment la clé de l'adaptation. Plus une forêt est diversifiée en essence, mais aussi en structure, c'est-à-dire en la façon dont les arbres sont agencés dans l'espace, plus elle est résiliente aux effets du changement climatique. La monoculture, oui, est plutôt à éviter, puisque d'une manière générale, on sait que les forêts diversifiées sont plus productives et plus résilientes.
Des bruyères, des étangs, des loutres, cette forêt n'est pas seulement un réservoir de bois à exploiter de façon intensive. L'entreprise CNP Assurance, propriétaire du massif, préfère miser sur une forêt en bonne santé, capable de stocker du CO2. Elle espère ainsi, à son échelle, tenter de limiter le réchauffement.
Et Célia, est-ce que le label FSC, Forest Stewardship Council, est un gage de qualité pour les consommateurs ?
En France, oui, le bois FSC est vertueux. Le label vient d'être durci, mais à l'échelle mondiale, il n'est pas bien respecté. Sylvain Angeran de l'ONG Canopée Forêt Vivante dénonce un manque de transparence.
Quand vous achetez un bois avec un label, vous n'avez pas le nom du pays dans lequel le bois a été produit. Et le label FSC en particulier, il est plutôt exigeant en France, c'est le plus exigeant. Mais pour autant, FSC continue de certifier des coupes rases en Roumanie ou en Suède dans lesquelles on détruit des forêts primaires. Et ça, le consommateur ne peut pas s'y retrouver.
Et en France, moins d'un 1% de la surface de la forêt est certifiée FSC, c'est l'exception. Ailleurs, les coupes rases, la monoculture sont souvent la règle. Nous sommes au tout début du chemin vers une forêt productive et en bonne santé.
Forêt, un trésor à préserver, notre série à retrouver sur le site de Radio France. Célia, vous revenez vers 6h40 pour votre chronique de Boule à terre.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et à 5h46, c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout qui a pour ambition, rien que ça, de rendre nos réveils créatifs. Bonjour Benoît Rouillet.
Oui, bonjour.
Vous faites partie de l'association Réveil Créatif à Toulouse, mais d'abord question traditionnelle, pourquoi à cette heure matinale êtes-vous déjà debout ?
Ben écoutez, c'est simple, je fais partie de l'équipe Réveil Créatif et tous les mois, et c'est aujourd'hui, ce matin, on reçoit un invité sur le thème de la créativité, donc ça commence tôt ce matin.
Qu'est-ce que c'est les Réveils Créatifs ? Donc, c'est une association qui a été créée en 2012 par une bande d'amis en partenariat avec l'éditeur Milan Presse. Et quel est l'objectif, la proposition ?
Bon, en fait, c'est une fois par mois, on a un invité sur le thème de la créativité, donc qui vient nous parler de la créativité dans son domaine d'activité. Et on commence avec un petit déjeuner et puis ensuite on donne la parole à notre invité.
Mmh. Donc c'est de 8h30 à 9h30, c'est pour ça que ça s'appelle les réveils créatifs.
Exactement.
Voilà, c'est un réveil qui peut quand même durer jusqu'à 10h30.
Non, alors voilà, maximum. On essaie de faire en sorte que les gens puissent venir nous voir avant d'aller travailler. Donc on commence à 8h30 et généralement on termine à 9h30 pour que les gens puissent aller au travail.
Et ça se passe dans des lieux particuliers ?
Oui, alors ce qu'on essaie de faire, c'est faire découvrir tous les mois un invité et faire découvrir quand c'est possible un lieu à Toulouse que les Toulousains connaissent pas forcément.
Exemple ?
Alors par exemple, ce matin, on sera dans un lieu d'exposition qui est un lieu d'exposition municipal, qui n'est pas forcément connu des Toulousains et qui a le mérite d'être quasiment face à la Garonne, à côté d'une jolie place, la place de la Dorade. Donc voilà, on va découvrir ensemble le lieu ce matin.
Et alors, vous en êtes à votre 114e invité, pas mal. Quel type de profil vous recevez ?
Alors, ce qui est intéressant avec la créativité, c'est qu'on peut avoir des invités de tout type. Alors, bien sûr, on a reçu des artistes, hein, metteurs en scène, danseurs. Et puis, on peut recevoir aussi des scientifiques. Et puis, on a même reçu un journaliste de radio.
Notre confrère Bruce de Galzin, de ICI Occitanie.
Exactement.
Parce qu'un journaliste, c'est créatif aussi.
Eh bien, écoutez, en tout cas, il nous a expliqué que dans son activité de journaliste, il y avait vraiment la nécessité pour lui de se renouveler en permanence et donc de faire preuve de créativité. Et c'est vrai qu'on a un bon souvenir de sa participation. Il nous a fait écouter un son qu'il a fait réaliser quand il avait suivi un déplacement du pape en Irak. Enfin, un reportage incroyable. Ouais.
C'est quoi la créativité au fond ?
Bah alors. Finalement, on essaie de. S'il y avait un point commun un peu entre tous nos invités, bah, tous ces invités, au final, ils ont fait un pas de côté. Ils voient leurs activités de manière un petit peu différente. Ils se laissent aussi surprendre. Ils prennent le risque de se faire surprendre. Et puis, ils ont tous en commun aussi de beaucoup travailler, en fait.
Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que membre de l'association ? C'est une nourriture spirituelle ?
Alors, spirituel, je sais pas. En tout cas, oui,
intellectuel.
C'est vraiment, voilà, intellectuel. En tout cas, c'est super de pouvoir rencontrer comme ça dans un contexte privilégié, bah, des gens qui font la créativité à Toulouse. Et puis on est une bande d'amis. On se retrouve comme ça le matin. Et puis après, on a des réunions pour préparer nos rendez-vous. Donc c'est vraiment très ouais, très, très intéressant, très enthousiasmant.
Et aujourd'hui, les réveils créatifs cherchent des partenaires financiers ?
Oui, alors partenaires financiers, effectivement, l'argent public se fait rare. Donc,
on le sait, oui, on en parle beaucoup.
Voilà, donc on est à la recherche de partenaires financiers. Et puis, alors je sais que peut-être le matin, il y a peut-être des boulangers qui nous écoutent.
Bien sûr.
Et donc, on serait intéressé aussi pour trouver des partenariats, alors non financiers, peut-être pour un boulanger partenaire pour nos petits déjeuners.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Benoît Rouillet, coordinateur et membre de l'association Réveil Créatif. Merci de nous avoir répondu sur France Inter et d'avoir rendu nos réveils plus créatifs. 5h51, avant de parler des hérésies dans le Café Philo. Flashback, nous sommes en 1997 et Janet Jackson chante avec le rappeur Q-Tip et la voix de Joni Mitchell, Got Till It's Gone.
Yeah. fucked with it for a minute.
You don't know what you what? Got to me.
Got Till It's Gone, extrait du sixième album studio de Janet Jackson, The Velvet Rope, sorti en 1997.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de déguster un café philo avec vous, Patricia Martin. Bonjour.
Bonjour Marion Lourd.
Au programme de Café Philo ce matin, les hérésies.
Oui, alors au départ, une hérésie, il faut le rappeler, c'est un terme désignant une opinion condamnée par l'Église. Le terme est désormais devenu courant. J'ai même entendu l'autre jour un député affirmer que la taxe Zucman était une hérésie.
Oui, parce que c'est un mot qu'on emploie maintenant quand on n'est pas d'accord, en gros.
Exactement. Retour. Alors, retour sur l'histoire des hérésies et des hérétiques avec un spécialiste du Moyen-Âge, André Vaucher.
À partir du XIIIe siècle, la contestation porte surtout sur des croyances qui ont été, sont devenues des dogmes avec les conciles de Latran III et Latran IV. Le dogme chrétien a été défini de façon beaucoup plus précise et donc il y a aussi toute une frange d'intellectuels, par exemple, qui est pris de recherches philosophiques, de culture philosophique, qui ne se sentent plus à l'aise dans l'Église et qui vont contester et qui seront condamnés comme hérésies. Donc il y a un renouvellement constant des mouvements et des personnalités hérétiques. À la fin du Moyen-Âge, ce sera aussi des pays, des nations entières qui se sentiront un peu à l'écart de l'Église. Par exemple, les Tchèques, au XIVe siècle et début XVe, les Tchèques développent, non pas des hérésies, mais ils expriment par exemple le désir de communier sous les deux espèces, le pain et le vin, ce que leur refuse l'Église romaine. Et à ce moment-là, ils se révoltent contre l'autorité de l'Église en disant que l'Église hiérarchique, le pape, n'a pas le droit de leur refuser de communier sous les deux espèces. Alors, ce n'était pas une hérésie dogmatique, hein, c'était simplement une autre manière d'être chrétien, de pratiquer le christianisme. Mais comme l'Église avait fini par assimiler l'unité à l'uniformité, eh bien, ces gens-là ont été rejetés, poussés vers l'hérésie et condamnés comme tels.
Et n'oublions pas qu'on a aussi pas mal persécuté les hérétiques.
Oui, tous hérétiques sur l'actualité de quelques débats chrétiens. C'est un essai du philosophe Denis Moreau qui sera donc ce soir votre invité aux côtés dans leur philo de Marie Lucas, autrice d'un livre sur Antonio Gramsci, Religion et hérésie dans sa pensée. À ce soir, Patricia Martin.
À ce soir, merci Marion.
20h10.
Allez, salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Hop, ça vous plaît ce bruit?
Ce vendredi, Aurel San est dans Totemic.
France Inter, 9h, Rebecca Manzoni.
Il sera question de K-pop, de chansons françaises, de paternité. Une heure de conversation avec Aurel San, 43 ans.
Je vais pas essayer d'être plus jeune qu'un jeune. À partir du moment où tu dis un jeune, déjà, c'est foutu.
Totemic.
Avec Aurel San, c'est ce vendredi à 9h sur France Inter.
Et à 5h57, c'est l'heure de saluer Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Céline.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Écoutez, vous ne m'avez pas donné votre météo, mais j'imagine qu'il ne va pas faire très beau et que le temps est perturbé, il me semble.
Il me semble que si, oui. Alors oui, effectivement, on a encore des averses près de la Méditerranée, par exemple. Des averses présentes hier sur le Languedoc-Roussillon, je l'ai donné à Ali.
Oui.
Oh, je suis partageuse. Donc, ces averses, hier, elles étaient présentes sur le Languedoc-Roussillon. Elles se sont décalées un petit peu plus vers l'est. On a eu de bons cumuls de pluie cette nuit sur le Var, et maintenant c'est la région PACA et la Corse qui sont arrosées avec un risque orageux. Pour les autres, c'est toujours plus calme sur l'est. On aura même de larges éclaircies sur un grand quart nord-est, sauf en Alsace où, comme hier, la grisaille va résister toute la journée. Puis c'est couvert sur une grande partie ouest du pays, avec quelques éclaircies quand même ce matin près des côtes, mais déjà une nouvelle perturbation qui arrive par la pointe bretonne. Elle gagnera au fil des heures tout le littoral atlantique. On va la retrouver dans l'après-midi de la Normandie aux côtes basques. Le soleil, lui, restera présent sur les régions les plus à l'est, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, où le temps sera toujours instable.
Et les températures ?
Bah pour les températures,
parlons-en.
C'est frais ce matin, 3 à 12 degrés du nord au sud. On a même quelques petites gelées dans le nord-est. C'est là qu'on a les températures les plus basses, hein. 3 à Nancy, 4 à Strasbourg, 5 du côté de Besançon. Et c'est très frais. Pour l'après-midi, on sera toujours au-dessus des normales de saison, 2 à 3 degrés au-dessus de ces normales, avec une moyenne qui ira de 14 à 20 degrés du nord au sud. La plus basse, elle est pour Strasbourg. Strasbourg, je vous l'ai dit, sous les nuages, la température ne va pas beaucoup grimper. On aura à peine 7 petits degrés. Et puis, pour les autres, ça grimpe quand même. Et on est toujours, je vous l'ai dit, au-dessus de ces normales de saison. 15 à Brest ou à Lille, ainsi qu'à Paris. 17 à Lyon et à Biarritz. 16 degrés à Bordeaux, 18 à Marseille. La maximale, elle est pour la Corse avec 20 à Ajaccio.
Eh ben, merci Céline Dacosta.